On passe à voix haute tout en vers ce dimanche, entièrement poétique avec la traductrice de la Divine Comédie, Danielle Robert. Son génie poétique a traversé les siècles. La Divine Comédie de Dante Alighieri est un trésor de la littérature mondiale. L'Italie a célébré son poète pour les 700 ans de sa mort. Son voyage au royaume des morts, en enfer, au purgatoire et au paradis évoque notre condition humaine, comment le traduire, comment le lire. Rencontre avec sa traductrice en français, ambassadrice passionnée du poète florentin et père de la langue italienne.
À voix haute,
Danielle Robert.
Manuela Salvi.
Bonjour Danielle Robert.
Bonjour.
Vous êtes traductrice et écrivain. 9 ans de travail et un livre, en fait une traduction, la traduction de la Divine Comédie, immense poème de Dante Alighieri, on a envie de dire immense traduction. Votre expérience de lectrice, Danielle Robert, d'abord.
Bon, elle est assez ancienne, elle remonte à mon adolescence, mais à l'époque où j'ai lu et étudié la Commedia, je n'avais pas du tout l'idée de la traduire un jour, je ne le supposais pas. Après, tout un concours de circonstances a fait que, petit à petit, je me suis approchée de ce monument et j'ai eu envie de le traduire.
Mais qu'avez-vous ressenti ? Vous étiez adolescente à la lecture de ce poème, qui est difficile à lire.
Qui est difficile à lire. Lorsqu'on est en classe ou même à l'université, on ne lit pas l'intégralité, on lit des passages. Et en général, surtout pris dans l'enfer. Mais ensuite, j'ai découvert les deux autres parties et je dois dire que, alors là, l'enchantement est encore décuplé.
La Divine Comédie, c'est une montée vers la lumière, un voyage intérieur qui commence dans une forêt obscure. C'est le premier vers de cette Divine Comédie, voyage tourmenté. C'est un peu notre chemin à toutes et tous, pourrait-on dire.
Exactement, exactement. Et je pense que lorsque Dante l'a écrit, bien sûr, il a voulu relater sa propre expérience puisqu'il se sentait investi de cette mission et qu'il fallait qu'il la fasse partager. Mais je pense qu'il a songé très certainement qu'il ne la ferait pas seulement partager aux gens de son époque, mais à toutes les personnes qui naîtraient après lui.
Et 700 ans après lui.
Et il a eu raison.
Voilà. Il a eu en effet bien raison. Alors, les éditions sont souvent agrémentées de notes et elles sont nombreuses, hein, qu'elles soient d'ailleurs en italien ou en français. La vôtre ne fait pas exception. Et c'est-à-dire, on l'a déjà dit, hein, que lire la Divine Comédie demande un effort, une attention particulière. C'est ça aussi que voulait Dante.
Certainement, certainement. D'ailleurs, très souvent, il a placé dans son poème des éléments assez ambigus, ambivalents et elliptiques. Il voulait justement que le lecteur fasse un effort, comme on doit faire un effort aussi pour faire cette expérience intérieure qu'il nous recommande. C'est un effort non seulement moral, mais aussi linguistique et littéraire. Il faut que l'on aille au fond du langage pour bien saisir le sens de la vie. Aussi.
Et que nous commencions notre propre voyage intérieur.
Voilà.
Et réflexion sur la langue. D'ailleurs, Dante était un poète, mais aussi un penseur, un homme politique florentin, oui. Né à Florence.
Très
mort,
important.
Mort à Ravenne.
À Ravenne.
En exil le 14 septembre 1321. Incroyable personnage. Mais qu'est-ce qui vous a motivé, Danielle Robert, pour traduire son œuvre la plus puissante, la Divine Comédie?
C'est le fait d'avoir d'abord traduit son meilleur ami Guido Cavalcanti. Et comme j'ai découvert cette œuvre absolument gigantesque, qui malheureusement en France est insuffisamment connue, je l'ai traduite en entier. Et à l'intérieur de cette œuvre, il y a des sonnets qui ont été envoyés par Dante à Cavalcanti et les réponses de celui-ci. Donc j'ai été amenée à traduire ces sonnets. Et lorsque j'ai vu ce que c'était au moment de les traduire, je les connaissais de lecture, mais c'est une autre chose lorsqu'on traduit, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de m'atteler aussi à la Divine Comédie.
Et atteler, c'est le mot juste parce que c'est 9 ans de travail.
Voilà, oui, je ne savais pas que ce serait si long.
Endurance ou passion, Danielle Robert?
Passion.
Passion pour
le fait même de traduire et pour le fait de traduire des œuvres de cette dimension-là. Évidemment, je ne dirais pas la même chose s'il s'agissait de textes plus légers, plus divertissants, bien sûr. Là, c'est autre chose.
Et vous avez traduit un monument. Monument, oui. Évidemment, très connu en Italie, des rues, oui. Des places. Enfin, tout le monde connaît le nom de Dante et probablement les premiers vers de cette Divine Comédie.
Et souvent beaucoup plus.
Mais Dante, c'est aussi un patrimoine européen.
Oui, bien sûr, parce que cette œuvre, tout comme d'ailleurs celle des poètes de son époque, ce sont des gens qui ont créé la langue poétique qui est venue jusqu'à nos jours et qui a influencé tous les poètes, non seulement italiens, mais européens. Et pour Dante, il y a aussi le fait d'avoir forgé une langue qui unifie les différentes régions d'Italie et qui soit une sorte de rassemblement des différents parlers locaux, dialectes, etc., en plus du latin et du provençal ou de l'occitan, parce qu'il a mêlé tout ça. Et donc, grâce à cela, il a déterminé, avant même que l'Italie ne connaisse son unification politique, qui est venue bien après, un début d'unification linguistique, mais qui n'empêchait pas chaque parler de garder ses caractéristiques et sa personnalité.
Et d'ailleurs, la langue de Dante deviendra effectivement la langue officielle de la toute nouvelle nation italienne en 1860. Mais n'est-ce pas étrange, Daniel Robert, que 700 ans après, alors que l'imaginaire de la Divine Comédie est certes un voyage intérieur, mais que l'imaginaire est religieux, qu'il nous parle encore?
Oui, mais on peut aussi l'interpréter d'autres façons. On n'est pas tenu d'avoir la foi de Dante pour entrer dans l'œuvre, parce que ce voyage intérieur, c'est le voyage que tout être humain fait. L'enfer, c'est le monde réel, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un enfer.
Où est le paradis, Daniel Robert?
Alors, le paradis, c'est ce vers quoi nous allons, mais il faut passer par le purgatoire, parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves pour traverser cet enfer. Et puis, si on parvient à tout franchir, on découvre enfin le paradis.
Et c'est
qui est l'amour, hein. À la fin, Dante n'a pas dit que c'était Dieu qui faisait bouger les soleils et étoiles. C'est l'amour.
Et d'ailleurs, Dante l'a écrit pour Béatrice, son grand amour.
Bien sûr. Qui est un amour poétique, puisque Béatrice, il ne l'a rencontrée que deux fois dans sa vie. Et ensuite, elle est morte très jeune, après s'être mariée d'ailleurs. Lui-même s'est marié, a eu 4 enfants. Donc, il n'y a pas eu entre eux de relation vraiment, ni amoureuse, ni sexuelle, encore moins. Mais il en a fait une allégorie de sa recherche de l'amour, c'est-à-dire de la poésie.
Et donc de l'amour universel.
De l'amour universel. Mais Béatrice, pour moi, c'est la poésie dans l'esprit de Dante.
C'est sa muse.
Voilà.
Vous parlez de langage poétique, un poème, Daniel Robert, c'est un rythme, une musique. Vous êtes aussi musicienne, est-ce que c'était un atout pour traduire, pour écouter la musique profonde du texte?
Bien sûr, incontestablement. Au fur et à mesure de mon travail de traduction, je lisais à haute voix le texte italien, et je m'en imprégnais par l'oreille, et ça me permettait de trouver les solutions qui étaient quelquefois difficiles à trouver pour traduire de la manière que j'avais choisie, c'est-à-dire en respectant la forme.
Alors, vous avez fait un choix audacieux, d'ailleurs. Il y a beaucoup de traductions de Dante Alighieri, hein, en français, mais dans d'autres langues. Mais en français, il y a beaucoup de traductions qui, évidemment, sont soumises à l'ère du temps. Mais vous avez fait un choix audacieux que personne n'avait fait avant vous. C'est quoi ce choix audacieux pour respecter la musique
du
texte?
C'est de respecter la terzina et la tierce rime, la terza rima, c'est-à-dire un système de versification plus souple, beaucoup plus fluctuant, qui permet énormément de variations. Donc il a fallu que j'essaie de capter cette fluidité et cette flexibilité et de la reproduire dans ma langue.
Et qui donne une énergie particulière au poème, voilà, aussi. Dans quoi appuyer Dante pour nous redonner,
dans la musique,
cette
parce
énergie.
Qu'il était extrêmement mélomane et connaisseur de la musique, et je pense que c'est ce qui a joué énormément pour lui. Et ce système de rimes impulse au poème un mouvement extrêmement puissant qui nous conduit de ce premier vers que vous avez cité jusqu'au dernier, l'amor che move il sole e l'altre stelle.
Et l'amour qui meut
le soleil
et les étoiles.
Et ce mouvement est constant, et comme chaque chant se termine par un vers unique, ce vers-là est à la fois la clôture du chant, mais l'ouverture du chant suivant. Et donc, c'est un mouvement, un roulement qui va jusqu'au dernier. Et cela a fait dire à certains savants, chercheurs en anthologie, que ce système-là était comme une invitation à poursuivre au-delà du dernier vers. C'est-à-dire que le poème n'est pas vraiment fini. Après la mort, qu'est mauvais sol et la tresselle, le lecteur doit enchaîner.
Donc il continue son voyage intérieur.
Et voilà, son voyage intérieur.
Alors, 9 ans de travail, Daniel Robert. Alors, si on décompose ce 9, ça fait 3 x 3. Et dans le poème de Dante, vous parliez de terzina, cette rime.
La terzina, c'est la strophe de 3 vers.
Le chiffre 3 est très important.
Pourquoi? Très important. Le 1 aussi. Et ça se voit donc dans la structure et dans la versification, et puis aussi dans le récit. Dès le début, Dante rencontre 3 bêtes qui lui font peur et qui l'empêchent de gravir la montagne qu'il voit, dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Ce n'est pas le purgatoire, c'est s'élever vers le haut. Il ne peut pas les franchir.
Aller vers la lumière.
Et il va rencontrer une personne qui est Virgile et qui est son guide. Ensuite, il y aura 3 femmes qui viennent du ciel, Béatrice, Lucie et Marie, qui conseillent à Virgile de conduire Dante vers le voyage qu'il doit accomplir. Et tout au long de l'œuvre, il y aura toujours ce 3 et ce 1 qui reviendront.
Quel sens donne Dante à ce 3? La Trinité? Parce qu'on est dans un imaginaire religieux, enfer,
bien
purgatoire,
sûr.
Paradis, ces 3.
Bien sûr, c'est sa foi profonde dans la Trinité.
Alors, ce qu'il voit en enfer, Daniel Robert, il le dit, Dante, aucun mot ne peut le décrire. On l'a dit, il a aussi inventé une langue, mais est-ce que c'est l'impuissance de la langue ou la puissance de la poésie, la puissance de l'imaginaire qui fait qu'il nous livre un texte qu'on peut lire, qu'on comprend et qui nous transporte?
Oui, c'est exactement ça. L'inquiétude quant à la possibilité de traduire en mots ce que l'on voit ou ce que l'on ressent, tous les poètes l'éprouvent, ça.
Tous les écrivains,
bien sûr. Ça touche également toutes les autres formes d'écriture. Mais il y a, en même temps, pour lui, la nécessité de le faire. C'est impossible, ça paraît impossible, mais il faut s'y mettre. Et il pense que tout homme a la même mission. C'est-à-dire, ce qui est impossible, il faut le tenter quand même.
Alors, c'est aussi l'idée de la nature humaine qui est vulnérable, fragile, faible, et qui perd le chemin à tout instant. D'ailleurs, lui, il a aussi perdu.
Il le perd à chaque instant, même lorsqu'il est guidé par Virgile ou par Béatrice. Il y a énormément de passages, beaucoup plus avec Virgile, où il est comme un petit enfant. Il se blottit contre l'épaule de Virgile, il a peur. Virgile le tense un peu, et Béatrice le tensera beaucoup, d'ailleurs, lorsqu'il la rencontrera. Et il se sent très faible et très démuni. Jamais il n'apparaît comme un héros. Mais il y a quand même en lui une forme de fierté et d'orgueil qui est: je suis poète, je suis investi d'une mission et j'irai jusqu'au bout.
Et je vous raconterai cette histoire-là. Donc,
voilà.
Homme en quête que Dante, transformation, métamorphose. Qu'est-ce que vous retenez de plus important de Dante que vous aimeriez transmettre aux personnes qui nous écoutent là en ce moment?
Ce que moi je retiens, c'est la puissance poétique. Et en même temps, j'ai été très très sensible à tous les aspects de sa vulnérabilité et de son impuissance à aller plus loin qu'il ne peut. Je trouve que c'est très bien parce qu'il est profondément humain. Donc lorsqu'on le lit, on ne se dit pas c'est une icône, c'est un personnage inaccessible. Pas du tout. Il est comme nous. Et il le livre tel quel, et j'ai trouvé ça très touchant. Et par moments aussi, il m'a amusée. Il y avait des endroits où je me sentais piégée parce que je n'arrivais pas à débrouiller les fils. Et je lui disais, ma babo, ma que faille. Je l'engueulais.
Il vous a entendu? Quel conseil donneriez-vous pour un lecteur ou une lectrice qui a envie de se plonger dans la Divine Comédie?
Bien, de commencer par le début, il faut commencer par l'enfer. Forcément, on ne peut pas commencer par la troisième partie ou la deuxième parce qu'on ne voit pas pourquoi, on ne comprend pas du tout. Et de ne pas penser que c'est une lecture qu'on peut emporter sur la plage ou dans un camping, c'est une lecture qui est exigeante, qui demande un effort d'attention, mais c'est pourquoi j'ai mis beaucoup de notes à la fin du volume. Lorsqu'on est arrêté par un nom ou l'évocation d'une bataille ou quoi que ce soit, il y a des notes qui donnent la clé, qui manquent lorsqu'on ne les a pas. Voilà. Cela dit, après, le lecteur est tout à fait libre de lire le texte sans se préoccuper des notes. C'est pourquoi je ne les ai pas mises en bas de page, parce que là...
C'est plus compliqué, effectivement. Oui. Ça trouble le regard. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas un livre de plage, mais un livre de chevet, c'est ça ?
Voilà, oui, oui, tout à fait. Sauf qu'avec l'enfer, on peut faire des cauchemars.
On passe tout de suite au paradis et voilà. À l'amour qui meut
le soleil
et les étoiles. Merci infiniment Daniel Robert. Donc Dante Alighieri, la Divine Comédie, c'est votre traduction publiée aux éditions Actes Sud.
Merci beaucoup.
Et bon voyage à qui veut bien le tenter. 14 233 vers de cette Divine Comédie. À voix haute, eh bien, rediffusion ce soir à 22h40 sur la première. Une émission à réécouter en tout temps sur rtsinfo.ch et l'application Play RTS.